Commençons par regarder quelques photos évangéliques. Luc 18. Un publicain se tient à distance, au fond du temple. Il ne veut même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappe la poitrine en disant « Ô Dieu, prends pitié du pécheur que je suis ». Et je vous le déclare, lui, redescendant chez lui, fut justifié. Voilà un homme chargé du poids de son péché, l'âme douloureuse, qui se sent coupable, sale, et pourtant il se tient debout devant Dieu. Quelque chose l'a poussé à aller au temple et l'a mené à parler à Dieu. Parler à Dieu, au Dieu trois fois saint. Et Dieu a entendu cette prière, Dieu était à l'écoute de cette âme brisée, Dieu a agi en lui et il est retourné justifié, c'est-à-dire ajusté à la volonté de Dieu. Quelle dignité un homme aussi pauvre et blessé qu'il puisse être peut se tenir devant Dieu et parler à Dieu. Et on appelle ça, d'un mot, la prière. Deuxième photo évangélique, une femme, Marie de Nazareth. Alors Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur. » Marie, à la visitation, confesse ce qui habite son cœur, ce qui habite sa prière. Elle exalte le Seigneur, elle célèbre sa grandeur. Marie chante à Dieu son émerveillement. À Dieu, elle peut confier, elle peut dire, elle peut chanter ce qui déborde de son cœur. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Dieu a accompli des merveilles en elle et Marie répond en confessant ces merveilles. C'est un dialogue, un échange d'amour. Et Dieu reçoit ce chant. Dieu reçoit cette louange. Celle qui se sent et se sait la toute petite, la plus petite, eh bien la toute petite s'élance vers Dieu par le chemin de la prière et remet à Dieu tout ce qu'elle a reçu de lui. Là encore, le mystère de la prière. La toute petite créature en dialogue avec le Dieu Saint qui l'écoute, qui est tout oreille. Troisième photo, Pierre. Pierre fit sortir tout le monde et se mettant à genoux, il pria. Puis, se tournant vers le corps de la jeune fille défunte, morte, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et à la vue de Pierre, elle se redressa et s'assit. Là, nous voyons cet homme, Pierre, seul dans la chambre, avec cette femme, cette jeune femme morte sur le lit étendu. Pierre, seul face à la mort, prie. La mort est toute puissante, elle vient d'emporter cette femme pieuse et généreuse. Pierre prie, il parle à Dieu, il dit ce qui habite son cœur et il écoute Dieu. Là où tout est noir, là où toute espérance est éteinte, il reste la prière, une porte ouverte sur le cœur de Dieu, sans formalisme, sans rite, sans temple, dans une chambre. Et la prière change la destinée des humains. Tout à l'heure, le publicain était justifié. Ici, Tabitha, cette femme, est relevée des morts. Pierre et la communauté découvrent la puissance du mystère pascal. Là encore, la prière. Un homme qui s'adresse à Dieu et Dieu qui l'écoute et qui répond. Quatrième photo. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 13. Un jour qu'il célébrait le culte du Seigneur et qu'il jeûnait, l'Esprit Saint dit à la communauté, Réservez-moi donc Barnabé et Paul pour l'œuvre à laquelle je les destine. » Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils leur donnèrent congé. Des hommes, cette fois-ci, pas un, mais des hommes qui se rassemblent. Ils s'adressent à Dieu et Dieu s'adresse à eux. Quelle magnifique scène, quelle dignité pour ce petit peuple de gens ordinaires qui font l'expérience que Dieu les écoute, que Dieu est là, que leur misère n'éloigne pas Dieu et que Dieu leur adresse la parole. Une parole qui donne vie bien au-delà d'eux-mêmes puisque c'est leur envoi en mission. La prière. Quelle merveille! Quelle merveille! Qu'est-ce donc que l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est-ce donc que l'être humain pour que tu t'en soucies ainsi? L'humain n'est qu'une créature, pécheur en plus. Et Dieu est le tout autre, le saint, le créateur. Mais il semble qu'il y ait comme une parenté, un lien toujours possible. Un moine d'Égypte, décédé il y a quelques années, le père Matta el-Maskin, qui a refondé un grand monastère dans le désert, s'exprime ainsi. « La prière est un don précieux accordé à l'homme pour entrer en la présence de Dieu. » Un don précieux. C'est par une condescendance inouïe de sa nature que Dieu accepte ainsi de se mettre à la portée de l'homme. Et cela à cause de l'amour du Père pour son Fils Jésus-Christ qui se tient humblement parmi nous chaque fois que nous prions, selon sa promesse. Et c'est le Saint-Esprit qui prépare par la grâce cette rencontre spirituelle invisible. Dieu ne peut pas être contenu ni par le ciel, ni par les cieux des cieux, à combien plus forte raison par la terre. Dieu ne peut pas être contenu. Malgré cela, Dieu aime entrer et se reposer dans l'âme humaine qui revient à lui. Car l'âme humaine est un souffle de l'haleine de Dieu, c'est-à-dire de son esprit. Et de même que l'âme, ton âme, éprouve un désir inné de son Créateur, de même le Créateur désire-t-il se reposer en sa créature, car elle est de son propre esprit. Dieu désire se reposer en toi. Aussi, poursuit ce moine, il ne faut pas s'imaginer durant la prière, ne jamais s'imaginer une forme extérieure de Dieu, Père, Fils ou Saint-Esprit, comme s'il se trouvait en dehors de l'homme, ou comme si l'œil humain pouvait le voir. Car c'est à l'intérieur de l'âme que Dieu se rend présent, et non à l'extérieur. Nous sentons alors sa présence, mais sans le voir. Et il ajoute, « Il est impossible que l'homme commence une prière humble et sincère et que Dieu reste absent. » C'est impossible. Si ta prière est humble et sincère, Dieu se manifeste, y compris dans le silence. L'homme doit être convaincu que Dieu n'est pas inconstant comme les hommes. Une fois qu'il a aimé, il ne cesse plus de venir en aide à l'homme, tantôt par la correction, ou même par l'abandon en se retirant, tout cela jusqu'à parfaire son œuvre en nous. Quel mystère que la prière! Eh bien, nous aussi, nous tous qui sommes ici ce matin, comme Marie, comme Pierre, comme Paul et ses compagnons, tous, nous avons déjà fait l'expérience de la prière. tous, nous avons fait l'expérience de Dieu dans la prière. Et je vous invite, dans un moment de silence, de faire mémoire de votre propre expérience de prière. Je sais que vous êtes des priants. Que nous fassions mémoire de notre expérience de prière. Et d'abord, quand est-ce que nous avons appris à prier ? Essayez de, là, dans un instant de silence, de vous rappeler quand, de quelle personne, de qui, dans quelles circonstances vous avez appris à prier. Moi, je vous avoue que ce qui monte en moi, c'est quand j'étais tout petit et que je voyais mon papa à genoux au pied du lit qui disait son chapelet. Là, j'ai appris à prier, en le regardant prier. Et chacun d'entre nous pourrait donner sa réponse. Et nous pouvons nous souvenir de nos premières expériences de prière. Moi, je vous partage, étant jeune, regardant de la communauté, enfin, à peine, connaissant à peine la communauté, dans l'oratoire de Magdala, notre maison en France, me trouvais, j'avais 23 ans, à côté du père Pierre-Marie qui faisait oraison. Ça m'a bouleversé. Je voyais cet homme-là, ce moine, en oraison. J'avais jamais vu ça. Voilà. On apprend à prier aussi en regardant d'autres prier. Et chacun d'entre nous, nous pouvons nous souvenir d'expériences marquantes de la prière. Et notamment, je vous propose, on va prendre quelques minutes pour ça, et même si on peut donner, pour ceux qui n'ont pas une feuille et un crayon, voilà, de marquer sur une feuille une expérience de prière qui vous a marqué. Voilà, une expérience que vous avez faite, mettons, dans les dernières semaines, les derniers mois, les dernières années, et juste de décrire, voilà, j'étais dans telle circonstance, avec, dans tel lieu, avec telle personne peut-être, voilà ce dont je me souviens. Et puis de le marquer en quelques mots sur la feuille qui vous est donnée, que vous garderez pour vous, hein, c'est vrai, ça sera pour vous. Si vous avez votre propre cahier, utilisez votre propre cahier. On va s'arrêter à plusieurs reprises ce matin pour noter comme ça quelques étapes. Moi, je vais relire, parce que j'y ai déjà pensé, la prière que j'ai faite devant le cercueil de mon papa en juin dernier, qui m'a amené à rendre grâce au Seigneur et à lui renouveler le don de ma vie. Voilà ce que je vais relire, moi, sur mon papier. Chacun, voilà, prenez une expérience de prière. C'est clair comme proposition ? Voilà, nous avons mis ça par écrit. Vous pouvez le reprendre dans les temps de pause si vous avez le désir de continuer à relire cette expérience. Ça peut être très enrichissant. Entre parenthèses, c'est une belle chose à faire dans l'accompagnement spirituel que de présenter à un accompagnateur ou une accompagnatrice la relecture d'un temps de prière. On apprend beaucoup de choses comme ça. Si vous regardez votre papier et vous vous souvenez de cette expérience, vous pouvez dire « c'est vrai ». Il y a eu une rencontre entre le pécheur que je suis et le Dieu trois fois saint. C'est vrai, ça existe. Et je peux rendre grâce de cette condescendance inouïe, comme disait tout à l'heure ce moine d'Égypte, de Dieu. Quel cadeau, quelle dignité! La grande dignité de chacune et chacun d'entre nous, puisque nous tous ici, nous avons fait cette expérience de Dieu dans la prière. Le Seigneur s'est penché sur son humble servante. Pensez à la prise de conscience de Jacob, le petit-fils d'Abraham, le jour, ou plutôt la nuit, où Dieu l'a visité. Et après, le matin, il dit, mais vraiment, c'est le Seigneur qui est ici et je ne le savais pas. Mais vraiment, le Seigneur est ici, il est dans ma vie, il travaille dans ma vie, il s'adresse à moi dans la prière, je le rencontre dans la prière, souvent dans le silence, mais il est là, il est là. La prière n'est pas donnée à une élite, simplement à des spécialistes ou à des gens très saints ou très héroïques, mais bien à tous. C'est ainsi que s'exprime et se forge ce que le pape François appelle la classe moyenne de la sainteté. Eh bien, c'est nous tous. C'est nous tous, la classe moyenne de la sainteté. Mais de la sainteté, parce que le Dieu saint nous visite. Mardi matin, dans son homélie, le pape François disait « Parmi nos fidèles, il y a des femmes âgées qui n'ont peut-être pas fini leur cours élémentaire, mais qui te parlent des choses de Dieu mieux qu'un théologien, parce qu'elles ont l'esprit du Christ. » Voilà, ça c'est nous. Gens ordinaires, gens des rues, gens de Montréal, mais visités par Dieu. La prière, vous le sentez bien, c'est un don. Si nous sommes sur ces chaises ce matin, c'est parce que Dieu s'est penché vers nous et nous a fait à nous tous ici déjà le don de la prière. La question, c'est d'accueillir ce don. Est-ce que vous voudriez, et je repose la question qu'Aurore vous a posée, est-ce que vous voudriez aujourd'hui accueillir d'une manière nouvelle le don de la prière ?
Oui.
Oui. Alors je vous propose qu'on prenne quelques minutes pour que par écrit, vous fassiez votre prière pour demander au Seigneur ce don, avec vos mots. Vous venez de dire « Oui, je voudrais recevoir le don de la prière ». Alors soyons, allons jusqu'au bout. Écrivons sur notre feuille, on se donne 3-4 minutes, une prière adressée au Seigneur où nous lui demandons personnellement, puis sérieusement, le don de la prière. Ce n'est pas banal de demander le don de la prière, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la prière, c'est un engagement. La prière, ce n'est pas des mots lancés dans le vide sans engager notre vie. Si je prie que ta volonté soit faite, c'est sérieux. Je m'y engage. Ensuite, la prière, c'est un acte d'adoration, de culte. Je m'adresse à quelqu'un d'infiniment autre, dont je ne peux pas saisir le mystère. Sa proximité ne nie pas sa sainteté. On ne peut pas prier sans enlever ses sandales, comme Moïse. C'est grand, c'est immense, ça me dépasse. 3, la prière est une entrée dans l'inconnaissable. Souvenez-vous de Moïse qui entre dans la nuée obscure. C'est ça la prière. On n'est plus maître de tout là. On entre en Dieu. Moïse pénètre dans la ténèbre véritablement mystique de l'inconnaissance, dit un père de l'Église, Denis l'Aréopagite. C'est là qu'il faut faire taire tout savoir. Il faut faire taire tout savoir positif, là, toutes les choses auxquelles on pense. Car il appartient tout entier à celui qui est au-delà de tout. Moïse qui appartient tout entier à celui qui est au-delà de tout. C'est ça la prière. J'entre dans cette nuée de ténèbres lumineuses, où c'est tout au-delà de ce que moi je peux comprendre. J'accepte, je consens. Dans le fond, il n'y a qu'un nom pour exprimer la nature divine, c'est l'étonnement. Vous savez, Dieu est toujours étonnant, Dieu est toujours émerveillant, toujours au-delà. Les Orientaux sont très attentifs à ça, plus que nous les Occidentaux. Dieu est toujours au-delà. Dieu est toujours celui que je ne peux pas décrire. Donc on va parler de Dieu négativement, comme celui que je ne peux pas décrire, que je ne peux pas dire, que je ne peux pas décrire. Il est au-delà. Et puis, ce n'est pas banal de demander le don de la prière, parce que la prière est toujours une conversion, un changement. un retournement dans ma vie. Le père Mathai Maskin, ce moine d'Égypte, écrit « Lorsqu'on prie souvent, la prière opère au plus profond de notre mentalité un changement fondamental. Si tu pries souvent, tu vas être changé. Tu ne seras plus le même. C'est une conversion. Lorsqu'on regarde le Christ avec persévérance dans la prière, son image mystique et invisible s'imprime secrètement en notre être intérieur et nous recevons ses qualités. C'est une autre manière d'être au monde qui va venir si tu pries régulièrement, avec fidélité. Pensez aux paroles de Paul, nous sommes transformés en cette même image toujours plus glorieuse comme il convient à l'action du Seigneur qui est esprit. 2 Corinthiens 3,16. Et ce moine égyptien compare l'effet de la prière au fait d'exposer un objet à un corps radioactif. Petit à petit, il y a les rayons qui rentrent et qui transforment. C'est ça que nous vivons dans la prière, dans toute forme de prière, transformée par cette expérience de Dieu. Et puis, demander la prière n'est pas banal parce que ça a un impact sur ma communauté, sur l'Église, sur le monde. Quand le pape François, le patriarche Bartholomé et puis Shimon Peres et Mahmoud Abbas ont prié ensemble au Vatican au mois de juin, ça a changé quelque chose. Une porte s'est ouverte. Pour l'instant, on ne voit pas la porte parce qu'elle est cachée par les fumées des missiles et de tout ça, même si ça s'est un peu calmé maintenant. Mais la porte est ouverte. Quelque chose a été changé par cette prière. La prière transforme le monde. Et puis, demander la prière, ce n'est pas banal parce que la prière comporte toujours un combat. La prière pure implique le reniement de soi et la mort des passions. Aussi le corps invente-t-il 1000 prétextes pour échapper à la prière. Regardez comme vous avez combattu pour venir aujourd'hui ce matin. Mon Dieu! Et le père Mathai Maskin ajoute, ces symptômes, c'est-à-dire ce combat, il n'y en a pas dans les prières pharisaïques, froides, accomplies pour recevoir la récompense des hommes. Ça, c'est génial. Si tu pries de manière pharisaïque, de manière froide, pour être vu, puis pour qu'on voit que tu es un priant, il n'y aura plus de combat dans la prière. Mais si ta prière est humble, si tu cherches Dieu, oui. Il y aura du combat contre tes passions. Disons-le d'un mot, la prière est impossible sans la grâce. Et c'est pour ça que nous avons écrit tout à l'heure notre prière pour demander la grâce de la prière. Nous, chrétiens de Montréal aujourd'hui, nous nous tournons vers toi, Seigneur, et nous te demandons, pour nous et pour tous ceux qui prieront au sanctuaire cette année, une grâce particulière de prière. Eh bien, cette grâce, moi, je vais vous en proposer une porte extraordinaire à mon sens, qui nous vient de l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 26. Et bon, je vais rester tout le temps maintenant sur un verset. On va creuser ensemble avec l'aide des Pères de l'Église. L'Esprit, l'Esprit Saint, vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Je le répète, l'Esprit, l'Esprit Saint, vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous. Il s'adresse à Dieu en notre faveur. Comment ? Dans des gémissements ineffables qu'on ne peut pas dire. Donc, quel est le contexte de ce texte de Paul, Romains 8, 26 ? Le contexte, c'est le suivant. Par la grâce du Christ, nous autres, chrétiens, nous sommes déjà enfants de Dieu. C'est la liberté extraordinaire qui nous est déjà donnée. Et nous sommes aussi héritiers, co-héritiers avec le Christ. Nous allons recevoir un cadeau. Ça, c'est la gloire qui nous est promise. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas encore dans la gloire. Vous, peut-être, moi, pas encore. Nous sommes encore dans la fragilité d'hommes et de femmes sauvés, mais qui ne sont pas encore dans la gloire. Nous ne sommes pas encore dans la résurrection. La résurrection nous est donnée en espérance. Et toute la création attend cette gloire et elle gémit. Et nous aussi, qui sommes enfants de Dieu déjà, mais nous gémissons parce que nous attendons la délivrance de notre corps, qui est la résurrection. Donc nous gémissons nous aussi. Nous sommes faibles. La faiblesse dont parle l'apôtre Paul, c'est la faiblesse de l'homme sauvé qui n'est pas encore pleinement dans la gloire. Et par conséquent, qui ne sait pas encore bien prier. Nous ne savons pas encore prier comme il faut. Et par conséquent, l'Esprit Saint vient, il s'infiltre, il trouve sa route, il trouve son chemin pour venir en aide à notre faiblesse d'hommes et de femmes sauvés, mais pas encore dans la gloire de Dieu. Le contexte est donc la fragilité du chrétien, libéré par le Christ, conduit par l'Esprit Saint, mais encore qui a besoin de cheminer pour entrer dans la gloire de Dieu. Ce que nous espérons, ben on ne le voit pas encore, sinon confusément. On a un certain sens de ce qu'est la vie éternelle. Mais moi, je ne sais pas exactement, je ne peux pas vous décrire la vie éternelle. Je ne peux pas. Il faut donc que l'Esprit Saint demande à Dieu, parce que moi, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais demander ? Je ne peux pas tout dire de la vie éternelle, je ne peux pas tout dire de la gloire de Dieu. L'Esprit, lui, le sait et il va le demander pour moi. L'Esprit Saint qui nous enseigne un comportement de fils et filles du Père nous enseigne aussi à prier comme des fils et filles du Père. Voyez, le point de départ aujourd'hui, c'est nous ne savons pas prier comme il faut. D'ailleurs, c'est pour cela que la liturgie commence toujours par « Dieu vient à mon aide hein ». J'ai besoin de Dieu pour prier Dieu. J'ai besoin de son souffle. Regardez les apôtres qui avaient bénéficié de tout l'enseignement de la Torah, c'est-à-dire de la loi, des psaumes, des prophètes, de la synagogue. Mais quand ils voient Jésus prier, ils disent « Apprends-nous à prier ». Ils se disent « Mais nous ne savons pas prier ». Et les disciples de Jean ont fait la même expérience. En voyant Jean prier, ils ont dit « Apprends-nous à prier ». Ils découvrent qu'ils ont tout à apprendre de la prière. Et c'est ce que Paul dit aux chrétiens de Rome. « Vous avez tout à apprendre, mais l'Esprit Saint va vous l'enseigner. L'Esprit Saint va intercéder en vous. » Soyons plus précis encore. Nous ne savons pas prier. Ça signifie trois choses. D'abord, nous ne connaissons si peu celui à qui nous nous adressons dans la prière. Deuxièmement, notre relation à lui. Nous savons si peu être en relation avec le Dieu trois fois saint. Et troisièmement, nous ne savons pas bien quoi lui demander. Origène, donc je vais citer beaucoup d'auteurs chrétiens des premiers siècles, dit que nous ressemblons à un malade qui, faute de connaissances médicales, demande au médecin quelque chose qui en fait va entretenir sa maladie. Et le médecin dit non, moi je te donne pas ça, je te donne les médicaments qui vont te faire sortir de ta maladie. Ben, souvent nous demandons à Dieu quelque chose en fait qui nous entretient dans la maladie de l'âme ou dans le péché. Et Dieu dit, non, moi je te donne pas ça, je te donne ce qui est bon pour toi. Nous ne savons pas bien quoi demander, dit Origène. L'Ambrosiâtre, un autre auteur chrétien, dit que l'Esprit Saint nous aide parce qu'il nous permet, il ne nous permet pas de demander à Dieu avant le bon moment ce que Dieu veut nous donner. L'Esprit Saint sait à quel moment Dieu veut nous donner telle grâce. Et donc, il ne nous permet pas de la demander trop tôt. Et puis, il nous empêche aussi de demander des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Saint Augustin voit deux raisons pour lesquelles nous ne savons pas prier comme il faut. La première, nous ne comprenons pas bien ce vers quoi nous allons et ce que Dieu veut nous donner. Et deuxième raison, beaucoup de choses en cette vie qui nous semblent positives ne le sont pas. Et vice-versa, il explique. La tribulation, l'épreuve, quand elle touche un serviteur de Dieu pour l'éprouver ou pour le corriger, on peut croire que c'est quelque chose de nuisible qui me vient. En fait, c'est bon pour le cheminement de mon âme et de ma communauté. Et à l'inverse, la prospérité peut être négative si elle piège l'homme ou la femme dans les plaisirs et l'amour de cette vie. Moi, je demande à gagner au loto, je gagne 1 million, et en fait, ce million va me faire perdre mon âme. Donc, c'est pour ça que le Seigneur, peut-être, il ne répondra pas à ma prière de gagner 1 million au loto. Voyez, Saint Augustin. Tout cela nous met devant la nécessité de recourir à l'Esprit-Saint, de l'invoquer, ou plutôt de l'accueillir, puisqu'il demeure déjà en nous. L'Esprit-Saint vient au secours de notre faiblesse, parce que nous ne savons pas prier comme il faut. Et là, je voudrais passer par un autre auteur chrétien, plus tardif cette fois-ci, Guillaume de Saint-Thierry, qui est un des premiers pères cisterciens, donc de la famille de Saint-Bernard, disons. Guillaume de Saint-Thierry commente ce verset, et donc comme Augustin, il parle de la nécessité que nous avons de l'Esprit-Saint, parce que nous ne savons pas très bien quoi demander. Mais il va beaucoup plus loin, et nous allons suivre Guillaume de Saint-Thierry pendant un moment. Il dit que l'Esprit ne nous guide pas seulement dans la prière de demande, je demande quelque chose à Dieu, mais dans d'autres formes de prière personnelle qui plaisent à Dieu. Et pour évoquer ces autres formes de prière, alors suivez-moi bien, c'est assez amusant, il part de la parabole où Jésus nous parle d'un homme qui frappe de nuit à la porte d'un ami. Vous vous souvenez de cette parabole ? Je vais frapper de nuit pour avoir du pain et à la maison d'un ami qui est déjà en train de dormir. Alors l'homme se réveille, il ouvre la fenêtre et puis il dit « Non, non, mes enfants sont au lit avec moi. » Donc, il y a l'homme qui est dehors, en dehors de la maison, puis il y a l'autre qui est à l'intérieur de la maison, et les enfants sont paisiblement avec leur père à l'intérieur de la maison. Ok ? Vous me suivez ? De même, il y a une manière de prier faite entièrement d'extériorité, où nous sommes comme retenus à l'extérieur de nous-mêmes. Et il y a des formes de prière tout intérieure, confiante, paisible et filiale. Et Guillaume veut nous parler de ces formes-là, de prière intérieure, paisible et confiante. Il y a déjà un enseignement. Il te faut frapper, insister, demander, toi qui es à l'extérieur de toi-même, pris par 1000 soucis, et tu seras admis à entrer en toi et à découvrir ces autres formes de prière. Mes enfants sont au lit avec moi. Autres formes de prière qui sont inconnues de celui qui reste à l'extérieur. Donc entre, frappe pour entrer à l'intérieur de toi et découvrir ces autres formes de prière. Car souvent, l'âme fidèle et dévouée, c'est nous en gros, s'efforce dans la prière de tourner vers Dieu le regard de son intelligence, de lui faire le sacrifice de la prière. On cherche à contempler, mais je suis fatigué et lassé par la difficulté et je laisse tomber. Que faire ? Que faire pour vraiment entrer dans la prière, entrer dans la maison ? Guillaume nous dit qu'il faut d'abord apprendre à chasser de notre imagination ce qu'il appelle les fantômes des imaginations terrestres et célestes. Il dit ceci, que tout ce qui se présente à mon esprit, qui puisse être entendu, touché ou savouré matériellement, je le repousse. Je ne le laisse pas entrer, je le laisse passer, je le laisse passer. Je suis à prier, puis je commence à penser à une chose que je vais manger, une chose que je peux voir, que je peux toucher. Tout ça, je le mets de côté. Il dit, si je pense à ces choses, je déploie leurs ombres à l'intérieur de moi-même. Donc non. Écarte ces choses hors des regards de l'esprit, avec la main du discernement, jusqu'à ce que l'âme se voit elle-même telle qu'elle fut créée. Donc, pour arriver petit à petit à poser mon regard sur une réalité auquel nous ne pensons pratiquement jamais, notre âme. Regarde un instant ton âme. Regarde sa manière d'être. Regarde cette réalité divine qui est en toi. Pose ton regard sur elle. C'est pas quelque chose que je peux toucher, que je peux voir avec l'œil de l'humain extérieur. C'est pas quelque chose que je peux manger ou savourer. C'est cette part en moi qui est divine. Regarde-la. Pose ton regard sur cette part divine qui est en toi. L'âme, elle a ceci de particulier. Elle saisit ce qu'elle comprend, mais en fait, et ça c'est pas habituel pour notre intelligence, l'âme ne saisit pas, elle est saisie par Dieu. Voilà. Elle est ce point de contact avec Dieu au fond de moi. Et dit Guillaume de Saint-Thierry, si je prends le temps de contempler cette part divine en moi, alors il se produit en moi un certain sentiment, une certaine douceur qui ne vient pas de mon amour pour Dieu, mais qui produit l'amour lorsqu'on goûte cette douceur. Quelque chose qui n'est pas connu, mais ressenti. Une certaine consistance des choses en espérance. Une très grande certitude des choses invisibles. Et de là, un témoignage fidèle au Seigneur dans ma vie. Car il en est comme pour un petit enfant paisible. Celui sur qui repose l'Esprit de Dieu ressent l'Esprit de Dieu, goûte l'Esprit de Dieu, au point que tout ce qui est matériel, tout ce qui est du monde ou de quelque créature, tout lui paraît insipide. Et lui serait égal de mourir s'il pouvait rester dans cette connaissance savoureuse de l'esprit que je ne peux pas connaître. Vous voyez ? C'est quelque chose de très profond en nous, au-delà de la connaissance intellectuelle. À ce moment-là, l'âme, ou l'homme, disons l'homme, demande ce qu'il ne connaît pas, parce qu'il ignore ce qu'il ressent. Je ressens quelque chose en moi que je ne peux pas exprimer avec des mots et des concepts, mais je perçois que c'est l'œuvre de Dieu. Et je me mets à demander quelque chose qui est au-delà de ma raison, parce que l'Esprit est venu en aide à ma faiblesse. J'ai pris le temps de l'intériorité, j'ai pris le temps de contempler, de poser mon regard sur cette part divine en moi, et là j'ai commencé à perdre pied dans la prière et à laisser l'esprit me conduire dans une réalité que je ne peux pas décrire, mais qui est si belle et si douce. Alors je me mets à demander quelque chose qui est au-delà de ce que je peux décrire. Voilà le témoignage d'un moine, Guillaume de Saint-Thierry, un moine. Alors, sa manière à lui, c'est de contempler l'âme. Il y a d'autres chemins. Lui, c'est un fils de Saint-Bernard, pour qui il y a un grand attachement, je dirais, au fait que l'image de Dieu dans l'homme réside dans la volonté. Si vous allez par exemple chez Saint Bonaventure, un fils de Saint François, qui a beaucoup regardé l'histoire de Saint François dans son corps avec ses stigmates, lui va dire que l'image de Dieu en l'homme réside dans l'âme et dans le corps, donc c'est beaucoup plus large. Et dans cette optique-là, un autre chemin de contemplation, ça va être « je contemple l'incarnation ». Je contemple la Pâque du Christ. Je contemple la venue de l'Esprit-Saint. Je contemple le mystère eucharistique. Et là, petit à petit aussi, de la même manière, je vais perdre pied et faire cette expérience d'une inhabitation de Dieu en moi beaucoup plus profonde que ce que je peux raconter et dire avec des mots. Que fait l'Esprit-Saint ? Saint Paul nous dit « Il s'unit à notre esprit ». Il vient à notre secours et il s'adresse au Père en nous dans des gémissements que je ne peux pas raconter. Écoutons encore les pères de l'Église. Théodoré de Cyre, commentant ce texte, écrit « Donne-toi à celui qui détient la clé de l'univers, à Dieu. Car même si toi, tu ne demandes rien et que tu ne fais que gémir, sous l'impulsion de la grâce qui demeure en toi, lui s'occupera de tes affaires avec sagesse et fera en sorte que tu obtiennes ce dont tu as besoin. En d'autres mots, si ta prière n'est qu'un gémissement, ne t'en inquiète pas. Le Seigneur sait de quoi tu as besoin. Ne crains pas de perdre pied dans la prière. Novatien, un autre auteur des premiers siècles. L'Esprit-Saint importune les oreilles de Dieu en notre nom, avec des gémissements trop profonds pour être exprimés avec des mots. Il accomplit sa tâche d'avocat en notre faveur. Laisse-le agir. Mais plus belle encore pour moi est l'interprétation de saint Augustin. Il dit ceci. L'Esprit qui intercède en nous n'est rien d'autre que la charité que l'Esprit a déposée en vous. Charité qui elle-même gémit dans la prière. Tu as pris un temps de prière, tu laisses le Seigneur faire, ben voilà que la charité va se mettre à gémir en toi vers Dieu. Rejette toute inquiétude. Laisse la charité exprimer ses demandes et les oreilles de Dieu sont ouvertes pour entendre. La réponse viendra, non pas ce que toi tu veux, mais ce qui est bon pour toi. Vous voyez, pour Augustin, la charité vient en aide à notre faiblesse parce que nous ne savons pas prier comme il faut. Laisse la charité envahir ta prière. Ou encore le pseudo-Constance qui écrit « Nous avons du mal à exprimer avec des mots le désir de la prière que nous avons conçu en nos cœurs. » C'est pourquoi Paul ajoute que l'Esprit prie pour nous avec des gémissements ineffables. Par conséquent, Dieu qui éprouve les cœurs sait quel est notre désir, même si nous ne sommes pas capables de l'exprimer avec des mots. Mais quelle consolation ! Dieu entend le désir profond de mon cœur, de nos cœurs, même quand nous sommes incapables de l'exprimer. Je n'ai donc pas à m'épuiser intérieurement à faire des belles phrases, mais il me suffira de présenter à Dieu le désir de mon cœur. Et l'image qui me vient, c'est un petit enfant qui montre un dessin qu'il a fait à ses parents. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais il le montre, il le donne à ses parents. De la même manière, tu vas vers Dieu et tu lui tu lui présentes ce qui est monté dans ton cœur. La prière dans l'Esprit Saint n'est ni bavarde, ni compliquée. L'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit d'esclave qui nous tient dans la peur malsaine de Dieu. C'est un esprit qui fait de nous des fils et des filles. Comprenez peu à peu que la condition nécessaire pour cette prière dans l'esprit, c'est de perdre la maîtrise de la prière et de demander l'esprit. Le père Mathaï Maskin a une très belle image pour dire comment demander l'esprit. L'Esprit Saint est d'une simplicité extrême. Il répond tout de suite à l'appel de l'homme, pour peu qu'on l'invoque d'un cœur sincère, plein de foi et de simplicité. Il suffit qu'on l'invite à venir simplement, comme on le fait avec un enfant simple et innocent, pour qu'il écoute et réponde. Donc comment faire pour invoquer, pour appeler l'Esprit ? Fais de la même manière que tu appellerais un petit enfant. Viens, viens, viens. Cette même simplicité. Je ne parle pas d'un enfant, d'un adolescent en crise. Je parle d'un petit enfant à l'âge où c'est tout facile. Viens, viens. Et bien l'Esprit Saint, c'est pareil, nous dit ce moine. Si tu l'appelles avec cette simplicité, à nous de l'accueillir et de consentir à être débordés par lui, de consentir à ce que l'Esprit souffle où il veut, quand il veut et comment il veut, et de le laisser nous conduire vers la vérité tout entière, qui n'est pas une vérité seulement intellectuelle, c'est une posture, une manière de se situer vis-à-vis de Dieu. C'est ça la vérité, une manière de se situer vis-à-vis de Dieu. Notre juste place vis-à-vis de Dieu, où coïncide mystérieusement le sens de la sainteté de Dieu et la tendresse filiale vis-à-vis d'un Père si aimant. Vous dites, mais c'est pas conciliable. L'Esprit Saint, il concilie l'inconciliable. À la lumière de tout ce que nous découvrons ainsi en écoutant les Pères, je vous propose de reprendre maintenant votre prière que vous avez écrite tout à l'heure et de vérifier que vous avez demandé clairement la grâce de l'Esprit Saint. Et si vous ne l'avez pas demandé clairement, corrigez, amendez, ajoutez, complétez votre prière pour que ce soit clair que vous demandez à l'Esprit Saint cette présence, cet enseignement, cette force dans la prière. On prend quelques minutes pour corriger notre prière et vérifier que l'Esprit Saint y a toute sa place. Qu'est-ce qui va se passer si vraiment nous nous remettons à l'Esprit Saint pour notre vie de prière ? Qu'est-ce qui va se passer ? Première réponse, j'en sais rien. J'en sais rien. C'est impossible de décrire à l'avance l'œuvre de l'Esprit. Vous savez tous, rappelez-vous toutes les fois où l'Esprit Saint vous a surpris. Deuxièmement, je peux dire, il faut l'Esprit Saint pour comprendre, ne serait-ce qu'un peu, le travail de l'Esprit. Sans l'Esprit Saint, je ne peux pas comprendre ce que l'Esprit Saint fait. L'homme laissé à sa seule nature n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. 1 Corinthiens 2. On peut néanmoins, grâce à l'Écriture et la tradition, nommer quelques-uns des chemins privilégiés de l'Esprit. Premier chemin, où certainement l'Esprit vous conduira, la prière de repentir. Ça, c'est une spécialité de l'Esprit Saint. La prière de repentir en laquelle notre âme a mal pour le péché que nous avons commis, pour le péché des chrétiens, pour le péché du monde. L'âme a mal et se tourne vers Dieu, sachant que la seule issue est la miséricorde divine. Et inséparablement, la prière de louange, qui, c'est la même dynamique. Prière de louange, prière d'émerveillement, souvent au-delà des mots, où l'âme est confondue d'émerveillement. Elle ne comprend pas un si grand amour et elle chante. Là, vous avez vraiment la marque de l'Esprit-Saint. Dans ce repentir douloureux, mais plein d'espérance, et dans la louange. Dans les deux cas, c'est l'Esprit de vérité qui a travaillé. Vous vous souvenez d'Isaïe, chapitre 6 ? « Malheur à moi, parce que je suis un homme aux lèvres impures, et que mes yeux ont vu le roi. » Ou Pierre, « Éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Et en même temps, « Abba, Père. » Vous voyez ? Ça, c'est la prière de repentir. Un autre chemin privilégié de l'Esprit-Saint sera certainement la prière d'intercession, qui prend toutes sortes de formes, et nous sommes tous très différents. Et ça peut être simplement de présenter à Dieu des situations, des personnes, sans explication, sans vouloir analyser ou déchiffrer. Et puis, un dernier chemin, la prière silencieuse, mais vraiment silencieuse. Une prière où je m'abandonne au gémissement de l'Esprit. Et pour ceux qui ont reçu cette grâce, la prière en langue intérieure, où des mots ou un chant, une sorte de phrase incompréhensible, monte du fond de notre cœur, est une grâce immense pour l'oraison, pour la prière silencieuse. Nous laissons monter la prière en nous. Mais attention, la prière silencieuse chrétienne n'est pas une plongée dans le vide. Si j'essaye de faire silence intérieurement, c'est pour laisser quelqu'un me conduire, l'Esprit Saint, et pour rencontrer quelqu'un, le Père, dans le Christ. Il faut être vigilant à ne pas tomber dans une sorte de prière impersonnelle. Non, la prière chrétienne, il y a un « tu » à qui je m'adresse. C'est essentiellement la prière de Jésus s'adressant au Père. Voyez, le royaume de Dieu n'est pas donné, trouvé ou ouvert pour ceux qui sont inertes dans la prière, voilà. Non. Mais à ceux qui demandent, qui cherchent et qui frappent à la porte, il faut demander dans la prière pour trouver. Le royaume doit être cherché et on doit frapper à la porte par la persévérance, dit Bède le Vénérable, un autre père de l'Église. Et je conclus. Lorsque le Seigneur nous donne de percevoir notre incapacité à prier, que je me rends compte que moi, j'y arrive pas, alors vont scintiller plusieurs trésors qui vont devenir mais merveilleux pour moi. L'Écriture sainte. Pour moi qui ne sais pas prier, ça c'est un trésor extraordinaire. Et l'Esprit Saint va ouvrir les mots. Il va nous faire rencontrer la personne du Verbe dans l'Écriture. Et puis, la tradition. Nous ne sommes pas les premiers à ne pas savoir prier. Et nous ne sommes pas les premiers à accueillir l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint a enseigné des générations, et cela donne la tradition de l'Église et la théologie quand c'est exercé comme un charisme. Et puis, la liturgie, qui est le sommet de la prière. Liturgie familiale d'abord, paroissiale, monastique, cathédrale. Vous savez, la liturgie, ce sont tous les gestes d'amour vis-à-vis de l'époux, que l'Esprit-Saint a enseigné aux chrétiens de génération en génération, et même avant, à nos frères aînés, aux frères juifs d'abord. Mais attention, la prière ne se limite pas à des moments de prière. Le père Alexandre Schmemann, un grand théologien orthodoxe, disait « Il y a la liturgie après la liturgie. » la liturgie, après la liturgie. Notre livre de vie nous dit « Toute ta vie doit devenir une liturgie sacrée ». L'autre jour, chez les Trappistes, on voyait un DVD sur la création fait par la BBC. Les merveilles, la beauté de la création et les prouesses de la technologie pour aller filmer des choses de manière extraordinaire. Et ça devient une prière. « Béni sois-tu, Seigneur ». Ça, c'est la liturgie après la liturgie. Vous êtes dans le métro. J'étais avec le père Taffet dans le métro vendredi. La gentillesse des personnes pour se lever, pour faire place à un prêtre âgé. Mais moi, j'ai béni le Seigneur. Ça devient une prière. L'autre jour, il y a peut-être un an ou deux, une personne qui était en train de mourir sous des chantiers qui s'étaient effondrés sur le parc La Fontaine. Il y avait au moins une vingtaine de camions de pompiers qui étaient là. La solidarité dans la ville pour prendre soin d'une personne, béni sois-tu, Seigneur. Vous voyez, notre quotidien peut être rempli de moments d'action de grâce. Quand je vois la solidarité des internautes pour faire des choses belles, il y a aussi des choses moches, mais aussi des choses magnifiques, je bénis le Seigneur. Vous voyez, la prière qui habite toute notre vie, la liturgie après la liturgie. Jean Vanier, quand il commente la femme adultère, il fait dire à Jésus, « Ne me quitte pas, va et ne me quitte pas. Ne me quitte pas quand tu es dans le métro, ne me quitte pas quand tu es dans ton chez-nous, ne me quitte pas quand tu es dans la rue. » Le quotidien devient une prière. Alors nous imbibons la ville de prières. Nous fournissons à la ville des espaces verts, de l'oxygène et même nous contribuons à la transfiguration de la ville. Si tu pries dans la ville, tu contribues à ce que la ville devienne ce qu'elle est appelée à être, la Jérusalem céleste. Il ne s'agit pas d'apporter Dieu à la ville, Dieu y est déjà avant toi, mais de permettre à Dieu qui l'habite de la transformer. Je vous renvoie là à la joie de l'Évangile du pape François, au numéro 71 à 75. Nous avons demandé le don de la prière. Je vous invite, et on va finir par ça, à relire votre petite prière et à dire « Seigneur, ce don de prière, je te le demande, afin de contribuer à la transfiguration de la ville de Montréal, afin de contribuer à ce que la sainteté entre dans cette ville. » Prenez les mots que vous voulez, mais que votre demande de prière, si ça vous parle dans le cœur, se conclut en disant, voilà, la prière, je ne te la demande pas pour moi, mais pour servir ton royaume dans notre ville de Montréal. Nous allons enchaîner maintenant avec un temps d'intériorisation, donc un temps de silence. Je propose vraiment qu'on garde ensemble le silence. Le silence, c'est quelque chose de très fragile. Il suffit d'un petit quelque chose pour le briser. C'est comme le cristal. Qu'on vive ce temps de silence jusqu'à la messe. Alors, vous pouvez rester ici. Vous pouvez aller dans l'église, là-haut. Si vous avez besoin, il y a un café, un jus, etc. Qu'on prend en silence. Mais on se donne ce temps. Et pendant ce temps, je vous propose un petit exercice. Il faudrait que vous pouvez distribuer ça. Merci beaucoup. On va vous distribuer une feuille. Sur cette feuille, d'abord, j'ai mis la citation de l'Épître aux Romains pour que vous l'ayez clairement. Et puis en dessous, il y a une citation du Livre de vie de Jérusalem. Et je vous invite à la réécrire. C'est-à-dire, c'est une citation qui dit « Le maître d'œuvre de ta vocation à la prière, c'est l'Esprit-Saint. » Que vous le réécriviez en vous adressant à l'Esprit-Saint. Donc vous reprenez le même texte, mais vous dites « Esprit-Saint, tu es le maître d'œuvre de ma vocation à la prière. » Donc, vous reprenez, si ça vous chante, vous reprenez le même texte, mais vous vous adressez à l'Esprit-Saint. Puis vous allez voir quel effet ça fait en vous. Voilà, c'est une sorte de petit exercice pour intérioriser tout ce qu'on a dit. Ça devrait donner quelque chose comme ça. Esprit-Saint, tu es le maître d'œuvre de ma vocation à la prière. Même si je ne sais pas quoi demander pour prier comme il faut, toi-même, Tu viendras au secours de ma faiblesse. Tu intercéderas pour moi. Mais écrivez-le. Le fait d'écrire, c'est-à-dire d'utiliser votre corps, ça aide à intérioriser. Bon temps de silence et d'intériorité.